c'est soin, c'est la soif de Rennes.
Tu sais qui c'est? C'est tu qui c'est?
J'ai pas du tout compris. Ce soir, c'est quoi?
C'est la soif de Rennes.
Bah,
Salma Hayek, mon gars.
Ah,
ça c'est l'intro, mon garçon.
C'est beau ça.
Et alors toi, tu penses, Pierre, que cette année, ça va être l'année du Stade Rennais?
C'est la saison de Rennes.
Non, on a commencé à en parler un petit peu hier soir avec Daniel et ça, j'avoue que ça m'a titillé, presque excité un petit peu de parler du Stade Rennais et de la saison qu'attendait le Stade Rennais. Alors pas juste parce que effectivement il y a une victoire contre Bordeaux, hein, qu'on soit d'accord, ou qu'ils ont fait un nul contre l'OM. On est qu'au début de saison, on va pas sortir la boule de cristal, etc. On n'aime pas ça, mais parce que il y a cet événement en fin de mercato à Tembe Ben Arfa qui débarque. Et puis tout le mercato qui est avant aussi.
Il y a Mbaye Niang aussi hein, qui arrive en même temps.
Mbaye Niang aussi, il fera partie de mon avis tranché bien sûr dans les arrivées importantes. Alors je vais calmer tout le monde, je vais pas dire que Rennes va être meilleur assurément que l'OL, que l'OM ou que Monaco.
Deux victoires
ou que le PSG.
Rappelle, deux victoires, un nul, une défaite depuis le début.
On est qu'au début et honnêtement ces effectifs qu'on vient de citer, notamment pour l'OL, l'OM et Monaco, ont des effectifs supérieurs encore à celui du Stade Rennais normalement. Mais je trouve qu'au regard des changements qu'il y a eu la saison passée déjà, orchestrés par Olivier Létang et Sabri Lamouchi, on va pas revenir dessus parce que tout ça est lancé, j'ai envie de dire, la restructuration du club à tous les échelons, voilà, pas que sur le plan sportif, sur le terrain, même si c'est peut-être le plus important. La professionnalisation dans pas mal de secteurs, le public qui est de plus en plus nombreux et qui on sent une certaine positive attitude dans les supporters rennais. Tout ça, on va partir du principe que les dirigeants et les staffs techniques ont commencé à bien le faire et qui vont donc s'appliquer à continuer à le faire. Voilà, il serait bête d'arrêter de le faire et je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on peut compter sur eux pour le rappeler aux joueurs et continuer tout ça. Non, ce qui me fait dire que ça peut être une belle saison pour Rennes, c'est que quand tu au début du mercato ou pendant le mercato, tu perds. J'ai fait ma petite liste. Niagnon, Gourcuff, Mbele, Persic, Kazri. Tu te dis. C'est pas évident qu'au 31 août.
En dehors de Kazri, t'as perdu personne en gros là.
Ah si, quand même.
Bah, tu perds des mecs qui jouent.
Si, après, tu perds des mecs qui jouaient.
C'est du gars facilement remplaçable.
Pas facilement.
Gourcuff.
Pas si facilement. C'est alors Gourcuff,
t'as rien perdu.
Peut-être si tu veux.
Niagnon, des défenseurs comme ça, t'en as beaucoup. Mais si.
Non, je suis pas d'accord.
C'est
interchangeable. T'en as pas tant que ça avec les moyens que t'as.
Interchangeable.
Il faut toujours mettre en rapport les moyens que t'as et ce que tu peux faire avec.
Je maintiens interchangeable. Qui t'as dit encore?
Persich, Kazri, Niagnon, Mbele.
Et Kazri, au final, et Dieu sait que j'aime ce joueur, là aussi,
Il a fait une vraie saison.
Je te dis que j'aime beaucoup ce joueur.
Oui.
Mais je pense que c'est remplaçable et la preuve Rennes l'a fait.
Alors, tout le monde est remplaçable.
Après Niagnon l'année dernière, c'est le joueur le plus utilisé après
Niagnon cet été per Fekir.
C'est des joueurs
un peu plus emmerdant de trouver.
Mais Rennes n'est pas Lyon.
Donc c'est pas donc tout le monde est remplaçable, ça dépend.
Gourcuff n'est pas Fekir, on est d'accord.
Ça dépend.
Tout le monde est branché Daniel ne parlera pas du fait de que Rennes devient plus fort que Lyon et que les joueurs de Rennes deviennent plus forts que les joueurs ou en tout cas en termes de potentiel que ceux de Lyon ou de l'OM, c'est pas ça. C'est que pour le Stade Rennais, au niveau du Stade Rennais, perdre ces joueurs-là, notamment des joueurs cadres.
Ils l'ont fait!
Notamment des joueurs cadres.
Donc ça veut dire que quand tu travailles bien, tu le fais.
Quand tu travailles bien. Merci Daniel. C'est important. Tout le monde ne travaille pas bien forcément.
Juste sur Niagnon et Kazri pour aller dans le sens de ce que dit Pierre. C'est peut-être des joueurs qui sont interchangeables, mais t'en as un, c'est le deuxième joueur le plus utilisé l'année dernière. L'autre, c'est le deuxième meilleur buteur. Non, mais il faut le temps que ça prenne. C'est ça que je veux dire. Tu perds des mecs qui sont des cadres de ton équipe.
Moi, je pense que c'est remplaçable, mais c'est pas si facile que ça. Bref, c'est bon. Vas-y, gagner qu'au 31 août, tu te dises ou en tout cas que Rennes puisse te laisser penser qu'ils ressortent un peu plus fort du mercato qu'ils n'étaient avant le mercato. Tu repars avec pas mal de joueurs cadres, comme Koubek, comme Léa Siliki, comme Benjamin André, qui eux sont un peu les garants de la continuité de ce qui s'est passé l'année dernière.
Ça,
et à
Bourigeau.
Ça, tu vas rajouter quelques... De quoi?
Ah, Bourigeau.
Non, lui, je le mets même plus. Alors, c'est un cadre, mais il est encore jeune. Tu vas voir.
T'as une autre catégorie pour lui.
J'ai une autre catégorie pour lui. Effectivement, t'as raison, il a déjà un beau vécu.
Ah ouais.
En termes d'expérience, de joueurs d'expérience comme ça, tu rajoutes Damien Da Silva. C'est pour ça que je te dis que c'est pas si facile. C'était un joueur libre qui était beaucoup demandé et c'était pas dit qu'il finisse à Rennes. Voilà, il aurait pu aller ailleurs, à mon avis. Jacob Johansson, Grenier. Voilà, Grenier, ça pouvait aller ailleurs aussi qu'à Rennes. C'était pas si facile de l'attirer, donc il y a effectivement du bon boulot qui est fait derrière. T'as des jeunes très prometteurs qui sont là et qui connaissent bien déjà la maison. Bourigeau, Sarr, Gélin, auxquels viennent s'ajouter également des bons jeunes, ou en tout cas qui
qui devrait le devenir, Sibatcheux, qui voilà, oui, qui était à Reims, qui a fait une belle saison en Ligue 2. Alors il doit confirmer, on est d'accord, hein, il va falloir qu'il le fasse. Del Castillo, lui, je savais pas trop où le mettre. Mbaye Niang, je sais pas si c'est un jeune, parce que ça, t'as l'impression qu'il a déjà, bah non, qu'il a déjà 28 ans, mais il a 23 ans. Il a un vécu de fou.
Ouais, il a un vécu de dingue.
Il a quelques expériences, mais il a que 23 ans.
Attends, même ça.
Ouais, non, mais c'est assez fou. Mais enfin bon, il est là, effectivement. Et puis, alors déjà comme ça, ça paraît assez cohérent. L'effectif, c'est là où je te rejoins, Daniel. Ça a été remplacé, voilà. Ceux qui sont partis ont été remplacés, même voir avec un peu de valeur ajoutée. Et puis, comme il faut, pour faire une grande saison, il faut un effectif cohérent. Ça semble être le cas. Et puis, il faut toujours le petit plus, la petite note, voilà, qui va te faire basculer quelques matchs ou qui va te faire basculer même une saison à la fin. Et ben, c'est le 31 août, c'est Atem Ben Arfa. Alors, Atem Ben Arfa, certains vont dire c'est un pari, c'est peut-être risqué, il a pas joué depuis longtemps de en compète, etc. Pour moi, c'est exactement ce qui match avec Rennes. Il y a une relation entre Olivier Létang et Atem Ben Arfa qui est spéciale et dont Atem Ben Arfa a besoin pour réussir là où il passe. Il a besoin de ça. On l'a vu partout où il est passé. Alors que ce soit avec un président, que ce soit avec un coach, que voilà, ça peut passer par différentes personnes, mais c'est un affectif et il a besoin de cette relation mi-professionnelle, mi-affective. Il a à mon avis très très fin. Et ça peut matcher très fortement. Et c'est pour ça, ça me fait dire que si Rennes, ou si un des trois devant Rennes, parce que pour moi Rennes va être là pour la 5-6e place minimum, si un des trois devant Rennes perd un peu trop de terrain, attention, parce qu'ils seront là pour choper une 4e place aussi.
Alors, on rappelle d'ailleurs que
je prends un petit risque. Allez, là, c'est une petite boule de cristal, une petite.
Le meilleur classement de l'histoire du Stade Rennais en championnat, c'est 4 fois 4e, justement. La dernière fois, c'était il y a une bonne dizaine d'années, c'était en 2006-2007. Toi, ouais. Tu les vois faire ça, toi? Voire peut-être même mieux, d'ailleurs.
Il faudra qu'il y ait un des trois devant qui fasse pas la saison.
Un petit dérapage.
Ouais, voilà, qui.
Ce qui est pas impossible,
c'est pas impossible.
On a moins les dérapages. C'est vrai que c'est un peu serré avec les 4 et tout, mais dans. Je suis Pierre, quoi, ouais.
T'es convaincu, ouais?
Cinquième.
Ouais.
Et si dérapage d'un de ceux qui doit faire mieux,
Moi, je mets la pièce, ils font minimum quatrième. Cette année.
Minimum quatrième?
Moi, je te dis qu'ils font quatrième minimum.
Non, donc, limite mieux, toi.
Ouais, je m'enflamme de ouf. Les gars, je m'enflamme. Okay. Là, on est là, regarde dans les combien, on est 3 septembre. Ouais. Quatrième journée, je te dis qu'ils finissent quatrième.
C'est beau, ça.
On accueille Simon, supporter de Rennes. Tu parlais de bonne vibration tout à l'heure.
De positive attitude.
Et bah, lui, il a eu des bonnes vibes hier au Roazhon Park. Simon, salut Simon.
Salut les gars.
Bonsoir Simon.
Alors t'étais au stade hier et alors toi tu la sens cette positive attitude, celle que tu me dis là.
J'adore cette chanson. C'est exactement ça. Non, c'est hier le.
Quelle belle référence.
Quand Ben Arfa a été présenté, même avant le match, il faisait beau. Chez nous, il fait pas tout le temps beau. Hein, vous connaissez Rennes, mais tout était réuni pour que ça soit un super après-midi. Et tout est réuni maintenant pour que ça soit une super saison. Je pense que depuis que Létang est arrivé, il y a quasiment un an maintenant, il a fait quand même un travail. Enfin, il a dû faire un sacré boulot. Et puis là, il nous ramène Ben Arfa. Je pense qu'il travaille sur le dossier depuis très très longtemps. C'est pour ça que sur Kazri, il a pas tout fait pour le conserver. Parce qu'il avait dans l'idée de prendre Ben Arfa. Il arrive à le faire le 31 août. C'est assez hallucinant. Nous qui sommes le Stade Rennais, le club équipé de la loose depuis 15 ans, on arrive à ramener un joueur comme ça et à passer dans une autre dimension. Alors nous, en tant que supporters, ouais, on a tous, je pense, on est en train de se dire que notre club change d'air un petit peu et on l'attendait depuis un moment parce qu'on sait que financièrement, on a comme un propriétaire qui est présent. Donc,
oui, aussi, c'est vrai. J'en ai pas parlé, Simon, t'as raison. Il y a aussi un peu de moyens.
D'ailleurs, Sabri Lamouchi l'a remercié, les propriétaires, oui, lors de la conférence de présentation de Ben Arfa et de Niang aussi, hein, parce que
faut et de Niang, aussi. Ouais. Et puis pour revenir sur les propriétaires, faut quand même pas oublier effectivement que on a pris Guitan l'année dernière, enfin au mercato d'hiver pour 12 millions d'euros, je crois. Hein. Sibatcheux, ça doit être à peu près pareil. Donc on met quand même les moyens sur des jeunes joueurs. Tu complètes avec Clément Grenier, Ben Arfa, des joueurs expérimentés. Ça fait un effectif, en tout cas. J'ai pas vu ça à Rennes, même à l'époque où il y avait des Alexander Frey, même à l'époque de Gian ou compagnie. Non, je crois qu'on n'a pas vu un effectif comme ça. Maintenant, il faut que la mayonnaise prenne, je vois pas pourquoi elle prendrait pas. Donc après, vous êtes super enthousiaste et vous les voyez quatrième, cinquième. Moi, ça me va très bien d'entendre ça. J'y crois aussi. Maintenant, si tu finis 5-6e et que tu fais un parcours en Coupe d'Europe où tu ramènes aussi des sensations qu'on n'a jamais connues, nous à Rennes, tu peux faire un 8e de finale ou un quart, parce que quand on voit ce que le parcours de Marseille l'année dernière, c'est pas impossible de faire un quart de finale. Si tu chopes,
si t'as du bon tirage,
Ouais, si t'as du bon tirage, tu peux faire. Enfin, je dis pas aller en demi, mais on sait jamais. Marseille, l'année dernière, si vous prenez le parcours, ils font quoi comme exploit? Ils font Bilbao, c'est un exploit, je sais pas. Donc
après, aujourd'hui, je sais pas si une équipe comme Rennes est capable d'aller sortir Leipzig, même Bilbao, ou même ce Salzbourg-là, qui était une bonne équipe. C'est une fois qu'on y est que...
Déjà, sort le Dynamo Kiev, va t'imposer Astana et à Yablonets, tu vois.
Oui, déjà, on va commencer par là, mais ce que je veux dire, c'est que penser à faire un parcours en Coupe d'Europe, alors qu'on était en train déjà de se poser la question de sortir des poules. Alors, on se pose toujours la question, parce que c'est un groupe hyper piégeux. Enfin, effectivement, des déplacements, on en a déjà parlé.
Attends d'être tout nu avant de dire que tu vas la pécho.
non, mais après...
Ah, tu pécho que quand t'es tout nu, toi.
C'est pas facile.
Non, mais justement, c'est que si t'es tout nu.
Ça peut faire peur, quand même.
Non, mais c'est que si t'es tout nu.
C'est que t'es quand même
bien parti.
Quand même bien parti. Quoi.
Voilà, ou c'est que t'es un gros pervers.
Ou que tu vas finir.
Ou que tu vas finir en tôle, ouais.
Ah, mec, c'est grave.
Mais non, je pense que, voilà, tout est réuni cette année. Et puis, Ben Arfa hier, sincèrement, comment ça a été mis en scène, là, son entrée,
Avec la mise en scène, t'étais en kiff.
Ah bah sincèrement ouais, parce que après effectivement on bascule dans du football spectacle plus avec des mises en scène sur des joueurs qui n'ont pas encore joué un seul match dans ton équipe, mais je pense que le foot aujourd'hui c'est ça, c'est des sensations même sans ballon. Et hier sincèrement on aurait fait 0-0. Moi, j'aurais été déçu, mais j'aurais vécu l'avant-match avec Ben Arfa.
Ce qui est important, Simon, dans ce que tu dis, c'est que toi, tu l'as ressenti hier. T'as pas été seul, à mon avis, dans le stade à le ressentir. Ça veut dire qu'il y a une espèce de positive attitude. Moi, j'ai cette expression, elle me plaît, qui va se créer. Et à Tembe Ben Arfa, quand il va retoucher ses premiers ballons, etc., vous allez être derrière lui. Et lui, il va le sentir. Et bien sûr que ça compte.
Attendez.
Mais tout n'est pas fait. Mais ça compte.
Le bémol dans votre enflammation.
Mais c'est un fantasme, Ben Arfa.
On aime tous, et c'est pour ça qu'on parle de Rennes en début de saison, on aime tous quand il y a quelque chose de frais qui se passe.
Ouais.
Quand
on a envie que ça marche.
Tu as une bonne gestion, du bon travail, ce qui est le cas. Un entraîneur agréable, ce qui est le cas. Des joueurs qui jouent au ballon, c'est le cas. Maintenant, il y a quelques inconnus. Comment Rennes va gérer justement le fait qu'on commence à beaucoup parler d'eux. Si on commence à beaucoup parler d'eux. Déjà ce soir, on n'a jamais fait aussi long sur Rennes. Comment les joueurs vont réagir face à une attente du public qui va être un petit peu plus importante. Comment les joueurs, l'entraîneur vont gérer les semaines où il y aura deux matchs par semaine. Et notamment les matchs du jeudi, qui on le sait, traditionnellement, font moins bien jouer le dimanche. Surtout quand on fait les déplacements exotiques qui plaisent à Nico. Donc ça, ce sont des inconnus qui ont causé des soucis à des équipes plus expérimentées. Donc...
Attends, t'as oublié une chose.
Je suis d'accord avec toi pour le coup de fraîcheur, ça me plaît beaucoup. Ça nous met un petit coup de ventilo dans la tronche. Mais à côté, il y a quand même beaucoup de choses à gérer quand même. Les deux matchs par semaine, l'effectif, quand tu fais tourner un mec, comment l'autre...
Attends, et la gestion, c'est la gestion des hommes aussi. Moi, Ben Arfa et Mbanyang, ça me fait fantasmer, mais il faut les gérer aussi, les deux.
J'allais enchaîner avec ça. Ben Arfa, je pense que maintenant, je pense que ça va mieux de ce côté-là. Mais un mec comme Nyang dans un effectif, ça n'a jamais pas posé de problème. En gros, je refais la phrase dans l'autre sens, ça a toujours posé des problèmes. Mbanyang, non mais sans déconner, c'est vrai. Hein. Partout il passe. Hein. Toujours une galère. Il y a toujours des galères avec lui. Donc.
Ouais, mais il a confondu. Il croyait que c'était la marche avant.
Non, mais c'est pas que pour le coup de la bagnole. Hein.
Oui, je sais.
À Milan, va demander là-bas, à Gênes, tout. Les mecs, quand il part, il y en a aucun qui pleure. Hein. Donc, il faut gérer ce genre de caractère-là.
Faudra le gérer.
Voilà.
Bon, peut-être cinquième.
Il va falloir qu'il continue à être bon dans la gestion.
Je vois peut-être cinquième au final, alors, tu vois. Bon, Simon, merci en tout cas.
Bah, merci à vous, les gars.
Belle saison à toi. Et alors,
on
souhaite que ça continue, mon gars, que tu continues de kiffer sur le terrain.
Merci.
Aussi. Voilà.
Merci beaucoup.
Salut, Simon. Bonne soirée, Simon. Tiens, on va passer aux questions de l'after, les gars, si vous voulez bien. On va ouvrir le dossier de Kylian Mbappé. Alors, le PSG, vous le savez, s'est imposé 4-2 à Nîmes ce week-end. Mbappé qui a marqué, qui a été exclu en fin de match, tout comme Tijé Savanier, qui a été coupable d'une faute sur l'attaquant parisien. Et à l'issue de la rencontre, Kylian Mbappé a déclaré qu'il ne regrettait pas son geste. On va l'écouter.
C'est juste une accumulation de choses. Après, c'est football. Il faut apprendre, lorsqu'on joue dans ce genre de club, à passer au-dessus. Parce que c'est tous les week-ends comme ça. Donc, si je m'énerve tous les week-ends, je vais prendre plusieurs rouges. Donc, il faut passer au-dessus de ça.
C'était quoi? C'était les coups juste qui s'accumulaient, c'est ça?
Non, je pense que c'est le dernier. Ça, on va pas s'étaler là-dessus, mais ça a rien à faire sur un terrain de foot. Mais bon, c'est pas grave. Il a fait un choix. L'arbitre a fait un choix. Et comme j'ai dit, il faut passer au-dessus de ça parce qu'on, le Paris Saint-Germain et nous sommes au-dessus de ça. Non. Et si c'est à refaire, je le referai et je m'excuserai auprès de tous les supporters et de tout le monde, mais moi, je peux pas tolérer ce genre de geste.
Alors le Nîmois TG Savanier a lui aussi réagi. Je n'ai pas compris, a-t-il dit. Il a gagné 4-2. Moi, je veux couper l'action. Je ne dois pas faire ça. Mais ce n'est pas un tac pour lui casser la jambe. Je ne l'ai pas vu venir. J'ai été surpris qu'il réagisse comme ça, a-t-il déclaré. Je ne l'ai jamais vu parler à l'arbitre comme ça à la télé. Comme je l'ai dit, je pense qu'il va le regretter. S'il continue, il prendra plusieurs rouges dans la saison, a déclaré TG Savanier. Alors Kylian Mbappé qui a réagi également hier après-midi suite notamment à ses déclarations du Nîmois. Il a tweeté Mbappé. Mes chers supporters parisiens, je souhaiterais m'excuser auprès de vous pour mon geste d'hier soir et ma réaction qui gâche notre belle victoire collective, mais aussi remercier le collectif Ultra Paris pour son soutien. Encore hier, c'était énorme. Question, comprenez-vous la réaction de Kylian Mbappé?
Déjà, c'est très bien qu'on entende les propos de Kylian Mbappé en entier. Parce que depuis le geste et depuis qu'il a tenu ses propos, beaucoup de médias, je ne vais pas dire tous, mais beaucoup de médias ont synthétisé sur le « je ne regrette rien, je recommencerai, je refais la même chose ». En oubliant tout ce qui a été dit avant et qui est un peu plus sensé quand même, de la part de Kylian Mbappé.
Ouais, ça c'est la phrase hors contexte, hein, c'est le mal du siècle.
Ah ouais, c'est terrible, parce que tu as l'impression que le gamin, il sort de... Enfin, le gamin, pas le gamin d'ailleurs, parce qu'on loue sa maturité depuis toujours, donc on va arrêter de dire le gamin, même si c'en est encore un. Le Kylian Mbappé sort du vestiaire et tu as l'impression qu'il a dit que ça, qu'il a dit « j'en ai rien à foutre, je ne regrette rien, c'est comme ça ». Si avant ça, il explique effectivement qu'il doit être au-dessus de ça parce que toute la saison il va avoir affaire à ce genre de coup, bah il a raison, il est effectivement lucide. Après, sur le je ne regrette rien, j'ai l'impression qu'il veut plus dire je ne regrette pas parce que je me suis énervé et que ça peut encore m'arriver et que c'est pas méchant quoi, c'est pas méchant, c'est une réaction instinctive quoi. Mais je pense qu'au fond de lui il sait très bien qu'il faut pas que ça recommence. Alors c'est une petite erreur de com sur la dernière phrase, mais qui est pour moi un peu plus tempérée par le début de la phrase. Et en ce qui concerne le Nîmois, c'est un peu pareil. J'ai vu plein de médias qui ressortaient que la moitié des propos.
C'est pour ça qu'on a voulu mettre tout.
Alors exactement, et vous avez bien fait de tout mettre, parce qu'on avait l'impression que Savanier donnait une leçon de morale à Kylian Mbappé. Non, Savanier commence par dire oui j'ai fait une grosse faute pour le couper dans sa course. Il est pas fou, il sait ce qu'il a fait.
Je voulais pas lui faire mal.
D'ailleurs, il a raison aussi. C'est pas effectivement un tacle les deux pieds décollés ou alors un tacle sur la cheville qui est encore plus dangereux qu'un coup de genou, qu'une béquille sur une cuisse, même si ça peut faire mal. Donc déjà, il commence par ça, en disant qu'effectivement, il est fautif. Et après, quand on lui demande la question et qu'on le fait réagir sur les propos de Kylian Mbappé, sur le fait qu'il ait dit effectivement, et je vois d'ici la question qui a été posée à Savanier, c'est Kylian Mbappé a dit qu'il regrettait rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on lui a pas dit tout ce qu'il avait dit avant. Et ben là, effectivement, lui, il répond, s'il fait ça, il va s'en prendre encore plus pendant l'année. Donc finalement, j'ai l'impression, moi, que les médias ont fait monter le truc.
Non, mais on va pas se mentir. C'est un peu le psychodrame du week-end, cette histoire.
Ouais, sauf que c'en est pas un, parce que c'est une faute sur un terrain de foot, qu'il y en a tous les week-ends.
Non, c'est
un truc qui peut s'expédier en 3 secondes.
Ça se passe à tous les matchs.
Voilà, stop, quoi.
C'est une façon de parler.
Mbappé, il sait beaucoup de choses. Il est mature. Il va très vite dans son apprentissage de tout. Et ben, dans ce domaine-là, il faut aussi qu'il apprenne. Voilà, il va prendre sa suspension, ou comme c'est la première et tout, ça sera peut-être 2 matchs et le reste avec sursis ou 3 matchs.
Sauf que j'ai peur que pour les propos, même s'ils peuvent pas s'en servir.
Non, ce sera hors contexte. Ce sera remis dans le contexte.
Ça sera pas dit, mais il prendra
ce qu'il a à apprendre. C'est pas très malin.
Il sait déjà.
Le reste de sa carrière lui apprendra que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et voilà, il apprendra.
Stop. Plus vicieux.
Alors tout à l'heure,
on a un rouge, le gars, en face.
Après que ça arrive avant toutes les analyses du match, du foot, de ce qui s'est passé, des choix de Tuchel qui, depuis qu'il est arrivé, est une sorte de Jésus-Christ redescendu sur Terre. Il n'y a pas une demi-critique, parce qu'on a décidé que c'était formidable.
Ou du
sur
fait
ses
que
choix,
le PSG, pour l'instant, ne repose que sur des coups d'éclat de
des individualités. La plupart des médias ont décidé que c'était comme ça que ça devait se passer, que le storytelling, ce serait ça. Ok, très bien.
Tout à l'heure, on évoquait le mercato du Paris Saint-Germain, alors qui a été marqué par la non-venue de Jérôme Boateng. Il y a eu discussion, et ça continue de faire parler à Munich. Uli Hoeneß s'est exprimé pour le magazine allemand Kicker, et il a déclaré concernant Antero Henrique: je conseille au Paris Saint-Germain de se séparer de son directeur sportif. Cet homme ne peut pas être la figure de proue de ce club. Si le PSG veut devenir un grand club au niveau mondial, il ne peut pas se permettre d'avoir un tel directeur sportif.
Sa bouche, lui, mais sans dire que c'est... Enfin, moi, ça me tue. Le mec s'occupe d'un club, il va conseiller un autre club, c'est ça? Il va conseiller un autre club.
Bah, visiblement, il est pas content que...
Non, c'est pas qu'il est pas content, c'est qu'il est aigri que ce soit pas fait parce qu'il voulait voir Boateng partir et qu'il est pas parti. Basta, et c'est peut-être une bonne affaire pour le PSG.
Non, mais alors, il y a deux trucs. C'est d'abord, tant qu'à faire qu'il nous dise pourquoi il dit ça.
Ouais, voilà.
S'il veut balancer, qu'il balance l'histoire, comme ça on saura pourquoi il pense ça. Deux, effectivement.
Les moralistes du Bayern, j'en ai
Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que, alors, lors du tirage de la Ligue des Champions, je crois que Nasser Al-Khelaifi a réagi et a un peu invectivé Tebas. Le problème, c'est que ça devienne un petit peu à la mode à droite à gauche, pas tous, mais certains, d'essayer de faire pipi sur le PSG.
C'est géopolitique quasiment, quoi.
Donc, je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'au PSG, mais en termes de communication, on est nul depuis des années, et je le dis, c'est qu'on sache un petit peu répondre à ça. Parce que, même envisageons que Enrique soit pas un bon directeur sportif, hein, les mecs de ton club, ton institution, ta famille, on doit parler, on doit défendre. On doit défendre, on doit se défendre.
Après, il a dit
on peut pas laisser, Non, il n'y a pas le temps. Il faut qu'il fasse 150 réunions de com à chaque fois pour répondre quelque chose qui est toujours bidon. La com du PSG.
Non, mais Sadio Bidic avait déjà mis un petit taquet hier.
Donc voilà, que les mecs du Bayern se permettent de parler, ils font ce qu'ils veulent, mais déjà, on peut penser que c'est pas normal, mais que le PSG ne dise jamais rien et à chaque fois, se fasse comme ça.
Je te rejoins sur ce point-là. À un moment donné, il faudrait le faire
sans réaction,
de façon très
c'est pas normal. Alors que Nasser, il est attendu de choper Tebas comme ça et tout, mais finalement c'est un peu flou. On sait pas bien ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'ils auraient dû le faire largement avant et depuis longtemps. Et de ce côté-là, le PSG est très mauvais.
Après, est-ce que la meilleure réponse pour Tebas, c'est jamais
l'indifférence. Tu te fais faire pipi dessus, tu t'en touffes pas la bouche.
J'ai fini ma phrase. J'allais pas dire que la meilleure réponse c'est l'indifférence. J'allais te dire que est-ce que la meilleure réponse de Nasser Al-Khelaifi, c'est pas les non-sanctions au niveau du fair-play financier qu'il y a eu.
On connaît pas encore le dénouement de l'histoire, on est là, ils ont fait un mercato, dans une boîte,
t'as différents services. Les mecs qui gèrent ça, c'est les juristes, les économistes, machin. Eux, ils gèrent ça. Après, l'autre, il parle, c'est de la com. Toi, tu dois avoir et tu dois répondre sur ce plan-là. Si tu t'es bien démerdé au niveau du FPF, c'est une chose, t'as des gens qui ont bossé dans tes bureaux, le reste, c'est ceux qui continuent d'enfiler les impairs pour leur pisse dessus.
Non, à un moment, il faut répondre.
Voilà. À un moment, tu dois quand même, je sais pas, quoi, tu dois réagir,
montrer,
quoi.
Montrer un peu les
voilà.
Contraintes,
ouais. Exactement.
Voilà. Messieurs, on revient dans
C'était bien, tes questions.
Quoi? Bruce Marge. D'accord, ok. Très bien.
Ah, il a une blague dans l'oreillette.
Non, mais pas, je sais pas, c'est nerveux. C'est pas, ça me fait marrer, des fois. D'accord.